Eh bien, bonjour mes frères et sœurs, nous venons de prier, de chanter et de louer le Seigneur Jésus. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur l'Internet. Vous allez bien?
Oui.
Alléluia. Moi aussi je vais bien, gloire à Dieu. En plus il y a le soleil, c'est bien. Ça nous change. Savez-vous que le mot loyauté représente une denrée si rare sur la terre que la Bible n'utilise le mot qu'une seule fois? Et encore, c'est dans Romains chapitre 1 pour dire que, à la fin des temps, les gens ne seront plus loyaux. C'est quand même terrible, hein? Ben voilà, mes frères et sœurs. Ce matin, je ne vais pas faire une lecture dans les Écritures, je vais vous raconter une parabole. Vous savez, quand un prophète se présentait devant le peuple, ben, il ne prenait pas une Bible pour lire un passage et puis ensuite il le commentait. Non, il parlait de ce que Dieu lui avait dit de dire et... Voilà, il faut que on accepte ce fait, c'est comme ça, la tradition est autrement, mais bon. Ce matin, je vais vous raconter une petite parabole. C'est l'histoire de la loyauté. La loyauté, c'est comme un magasin de vases de porcelaine, de luxe, très précieux. Et c'est l'amour qui a confié les clés à un gérant. L'amour, c'est Dieu. Le gérant du magasin de porcelaine aime son magasin de porcelaine. Il aime chaque vase. Il aime aussi les étagères sur lesquelles reposent les vases. Et il les a arrangées de façon à ce que chaque vase soit mis en valeur, comme il l'a voulu. Ce n'est pas les vases qui disent « moi je voudrais faire ci, moi je voudrais faire ça, moi je me sens poussé ». Non. Chacun de ces vases est beau, parce que chacun de ces vases est différent. Les hommes sont tous différents les uns des autres. Les femmes sont toutes différentes les unes des autres. Comme chaque goutte d'eau de pluie est différente d'une autre goutte de pluie, et comme chaque rocher qui dort sur la montagne est différente d'un autre rocher, et Dieu sait s'il y en a des rochers. Hein, les enfants, on est allé se promener dans les montagnes, vous avez vu tous les rochers, est-ce que vous en avez vu deux qui étaient pareils, non? Parfois, à cause du temps, ou d'un défaut inattendu, un vaisselier se fend et s'effondre. Et le responsable du magasin est tout découragé. Il dit, j'ai investi mon temps, j'ai donné les meilleures années de ma jeunesse. Tout mon amour pour cela, dans cette collection de vases précieux. Puis voilà qu'ils sont en pièces. En fait, c'est un peu comme si le vaisselier l'avait trahi et que les vases étaient détruits et s'étaient fichus. Alors le responsable du magasin, découragé, il vend son magasin et il devient solitaire, il devient amer. Et puis il pense... qui ne pourra plus jamais faire confiance à aucun vaisselier et à aucun vase, et que c'est fini, la vie, c'est terrible. Et parce que c'est vrai que quand des vases se brisent, c'est un pacte de loyauté qui est détruit. Un vase n'est pas fait pour être brisé. Mais le responsable, après avoir été découragé, il peut se reprendre. Il peut se reprendre et agir. Parce qu'en fait, le magasin lui a été confié à lui, pas au vase. À lui, pas au vase ni au vaisselier, mais à lui. Et c'est au gérant du magasin de prendre le taureau par les cornes, enfin, il vaut mieux pas qu'il y ait des taureaux dans les magasins de vaisselle. Si quelque vaisselier se casse, si quelque vase tombe, le magasin n'est pas en ruine pour cela. Ce gérant de magasin, il va dire « Bon, j'ai cassé ma biscotte, mais j'en ai d'autres. Amen. J'ai cassé ma biscotte, mais j'en ai d'autres. C'est pas la fin du monde. » Alors, que va faire le gérant du magasin? Eh bien, il a plusieurs solutions. Et ces solutions lui sont inspirées par le propriétaire du magasin qui voit que, voilà, il est tout triste. Le gérant a le choix parce que Dieu donne toujours plusieurs choix, plusieurs idées. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Alors, dans le cas là, dans le cas présent, on ne va pas laisser les vases cassés par terre. Ce n'est pas joli. Alors la solution, premièrement, la première chose à faire, c'est balayer les débris et les mettre dans une
poubelle.
Parce que ce qui a été cassé, ça ne sera plus jamais comme avant. Ou alors on peut les coller puis les mettre dans un musée. Hein, dans une dénomination religieuse, par exemple. Mais d'autres fois, dans un magasin, il y a d'autres choses négatives qui peuvent arriver. Le vaisselier va se fendre à cause de phénomènes étrangers au dessin humain. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà, c'est par un tremblement de terre. Ah, un tremblement de terre, on en parle, hein, des tremblements de terre. Une invasion ennemie. Ou la négligence de quelqu'un qui est entré dans le magasin un peu comme un éléphant. Il a tout cassé, il n'a pas fait attention. Et alors, tout le monde se met à dire, oui, quelqu'un aurait dû voir ce qui allait arriver. Il y en a même qui disent, moi j'avais vu ce qui allait arriver, mais j'ai rien dit. Ah ouais, ça sert à grand chose. Ou alors il y en a qui disent, en tout cas, si j'avais été le responsable, ce problème d'éléphant ne serait jamais arrivé. Eh bien, rien n'est plus faux. Mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez sur Internet, qu'est-ce qui a été cassé dans votre vie? Qu'est-ce qui a été brisé dans votre vie? Qu'est-ce que les gens racontent de cela? Quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous avez fait avec les débris? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes découragé au point de dire, bon, ben, je rends les clés, c'est fini. J'en ai marre, j'en peux plus. Mes frères et sœurs, nous sommes tous prisonniers dans les sables mouvants du temps. Et nous n'avons aucun contrôle sur les événements, sur beaucoup d'événements, nous n'avons pas de contrôle. Que peut faire le gérant du magasin? Le temps passe, et le vaisselier qui s'est cassé, il peut être changé ou réparé. Les vases, c'est plus difficile. D'autres vases, par contre, qui luttaient pour trouver leur place, vont être placés là, à la place de ceux qui ont été cassés. Sur le vaisselier réparé ou sur le nouveau vaisselier acheté. Et le gérant du magasin, comprenant que tout est passager, sur cette terre, tout est passager, eh ben, il sourit et il se dit, mais cette tragédie m'a offert finalement une opportunité. Je vais découvrir des œuvres d'art que je n'avais jamais imaginées auparavant. Et il se réjouit. La beauté d'un magasin de vases de porcelaine, ça réside dans le fait que chaque pièce est unique. Et quand elles sont placées habilement les unes à côté des autres, ça forme une harmonie, c'est quelque chose de très beau et ça reflète, n'est-ce pas? C'est très beau, mais ça reflète quoi en fait? Ça reflète la sueur du potier. Et puis ça reflète quoi? L'art du peintre aussi qui a peint, n'est-ce pas? Je vous parle de vraie porcelaine, je ne vous parle pas de la porcelaine qu'on peut acheter à Intermarché. Aucune œuvre d'art ne peut dire « je vais être mise à un endroit où je serai plus en évidence ». Et ainsi sont les vases, et ainsi sont les hommes, et ainsi sont les femmes, et les tribus, et les communautés. Et les arbres, et les étoiles, et vous rajoutez tout ce que vous voulez sur la liste. C'est comme ça. Quand on a compris ça, mes frères et sœurs, alors on peut s'asseoir tranquillement, en fin d'après-midi, et puis dire ce qu'on a à dire, et puis écouter ce qu'on a à entendre. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, c'est le fouillis des émotions. Oh, j'ai cassé ma biscotte. Parce que au-delà des montagnes qui séparent les tribus, au-delà des océans qui séparent les peuples, au-delà de la distance qui sépare les corps les uns des autres, il existe une communauté d'esprit. C'est pourquoi nous voulons sur cette terre créer une communauté visible, humaine, charnelle bien sûr, avec ses défauts, mais réelle, visible, qu'on peut toucher, qui soit à l'image de ce qui est dans le monde invisible. Parce que dans le monde invisible, il existe une communauté d'esprits. Et nous faisons partie de cette communauté d'esprits. Et dans cette communauté d'esprits, il n'y a pas de rue peuplée de choses inutiles, de mots inutiles. Il y a des grandes avenues, c'est vrai, mais qui rapprochent ce qui est éloigné. Et même si de temps en temps, on doit réparer ces avenues à cause du temps qui les ont endommagées, c'est normal. Regardez le fils prodigue qui était parti, il est revenu. Mais il est revenu quand c'était le temps. Et il est revenu comment? Riche d'une expérience qu'il avait acquise tout au long de son errance. Et le père a dit, apportez vite le meilleur vêtement, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds, parce que mon fils était mort et voici, il est revenu à la vie, il était perdu et on l'a retrouvé. Alors, il ne faut donc pas être aigri outre mesure quand un vaisselier se fend et se brise, entraînant dans sa chute des vases précieux. Bien sûr, on n'est pas content. Bien sûr, on ne peut pas sauter de joie au plafond en disant « Youpi, j'ai des vases cassés. Oh, comme il s'est bien cassé, c'est beau. » Non, on n'est pas content, c'est sûr. Mais il ne faut pas laisser l'aigreur prendre le dessus. Le responsable du magasin avait dit « Je ne ferai plus jamais confiance à personne. » Mais le temps lui a appris que là où il y a de la loyauté, on peut placer sa confiance. Les vrais héros, mes frères et sœurs, c'est des gens comme tout le monde. Ils ne sont pas nés, n'est-ce pas, pour des hauts faits. Ils ne savaient pas qu'ils allaient faire des choses extraordinaires et devenir des héros. Mais le vrai héros, c'est celui qui a su construire un bouclier de loyauté autour de lui, dans sa famille, premièrement, et puis dans son Église, pour nous qui sommes des chrétiens. Un ami est loyal. Et la loyauté, quand on est loyal, on ne confond pas la loyauté et l'acceptation de toutes les erreurs. On n'est pas des fanatiques. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, mais on le dit poliment, on le dit clairement, on le dit gentiment, on voit comment on peut arranger les choses. Et on ne se cache pas derrière l'Éternel en disant « Ainsi dit l'Éternel ». Et c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Non, on est loyaux, on est humain, on parle normalement. L'ami loyal n'utilise donc pas les pires armes qui existent, c'est-à-dire la parole, pour détruire l'amitié, pour ruiner une vie, pour pousser au suicide, sans laisser de traces de sang, si possible, parce que c'est sale. Parce que la pire arme de celui qui n'est pas loyal, c'est de parler, de dire les mots qui blessent, dont les blessures ne cicatrisent jamais. Et ces mots-là, c'est « je ne te ferai plus jamais confiance ». Là, il vaut mieux utiliser l'arme du balai et de la poubelle. Car si nous répondons à cela, il n'y aura jamais de vainqueur. Il n'y aura jamais de vainqueur. Si tu te mets au niveau de l'adversaire indigne, ta lutte, elle est dans les ténèbres, parce que tu t'es mis dans son niveau. Et le seul gagnant dans cette histoire, ça sera le maître des ténèbres. Donc il ne faut pas descendre à ce niveau-là. Et on ne parle pas avec ces gens-là. Non. On ne parle pas de ça. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, plus le temps... Je vous aime, pourquoi je vous aime? Parce que vous êtes loyaux. Pas parce que vous êtes parfaits. Vous m'aimez pourquoi? Pas parce que je suis parfait, mais parce que vous êtes... Voilà. La loyauté, c'est une perle au milieu d'une plage de sable. Il n'y a que ceux qui comprennent vraiment la signification de la loyauté qui peuvent voir cette perle. Les autres, ils voient du sable à perte de vue. Ainsi, le semeur de discorde peut passer 1000 fois au même endroit, il ne la verra jamais, il ne distinguera jamais ce petit joyau qui maintient unis ceux qui doivent être unis. Jamais. La loyauté ne peut pas être imposée par la force, elle ne peut pas être imposée par la peur, elle ne peut pas être imposée par l'insécurité, elle ne peut pas être imposée par l'intimidation. La loyauté, c'est un choix que seuls les esprits forts ont le courage de faire. Et parce que la loyauté est un choix, elle n'est jamais tolérante avec la trahison. Par contre, la loyauté est toujours généreuse avec ceux qui font des erreurs. Elle pardonne encore, encore, encore et encore. Vous voyez la différence? Parce qu'elle est un choix. La loyauté est un choix. La loyauté résiste au temps. La loyauté résiste au conflit. Et quand on en est là à être loyaux, à résister au temps, à résister au conflit, eh bien, on n'a pas de temps pour s'occuper du diable. On n'a pas de temps pour s'occuper de ses suppositoires. On se bat contre lui, c'est vrai, mais c'est tout. On n'en fait pas tout un plat. Nous arrivons au terme de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Tous les évangéliques sont d'accord pour le dire. Mais nous ne pouvons pas perdre notre temps à nous demander quel sera le sort des déloyaux. Moi, j'ai pas de temps pour ça. Il y a trop de gens, comme disait le frère Osborne, qui n'ont jamais entendu l'Évangile une seule fois, pour perdre notre temps à rabâcher les mêmes choses à des gens qui ne veulent pas entendre. Ce à quoi nous devons passer du temps, c'est de nous battre contre l'ennemi de Dieu, le diable et ses démons. C'est vrai. Et je vais vous dire quelque chose là aujourd'hui. C'est que les démons les plus dangereux sont ceux que nous croyons les plus gentils. On ne peut pas éviter de rencontrer ceux qui vont nous trahir. On ne peut pas. Mais tout le monde peut s'éloigner du mal. La Bible nous dit « éloigne-toi du mal ». Tout le monde peut s'éloigner du mal avant qu'il ne montre son vrai visage. Alors avec un peu de discernement, avec un peu d'expérience, alors on apprend. Parce que mes frères et sœurs, un comportement excessivement gentil annonce déjà un poignard caché et qui est prêt à servir. C'est pourquoi je dis que les hommes et les femmes loyaux ne sont pas gênés de se montrer tels qu'ils sont. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais tout simplement parce que les autres esprits loyaux les reconnaissent, comprennent leurs qualités, pardonnent et supportent leurs défauts, et puis voilà. Et puis voilà, c'est une question de nature. Par contre, de quelqu'un qui cherche à te plaire en tout temps, mon frère, ma sœur, éloigne-toi. Éloigne-toi. Même Jésus n'était pas quelqu'un qui cherchait à plaire en tout le temps à tout le monde. Vous avez vu comment... Et attention à la douleur que tu peux te causer toi-même si tu laisses un cœur lâche et indigne faire partie de ton monde. Quand il a accompli le mal, ça ne sert à rien de l'accuser. Ça ne sert à rien de l'accuser. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. C'est moi qui ai ouvert la porte. Vous voyez ? Ça, c'est des expériences que nous faisons. Et nous les partageons entre nous afin de nous fortifier, afin de nous édifier, afin que nous ne recommettions plus les mêmes erreurs et afin que ceux qui nous écoutent sur Internet apprennent aussi, nous croient et se disent « Bon, maintenant je vais faire attention. » Si on ne partage pas nos expériences, mais alors on retient la vérité captive, on est des méchants, on n'aide personne. Pas vrai ? Alors voilà ce que j'ai appris et voilà ce que je veux vous donner. Ne lutte pas pour prouver que tu as raison. Accepte le combat avec celui qui veut t'affronter pour une idée ou pour une doctrine ou pour une opinion. Accepte le combat, mais n'accepte ce combat que pour garder ton esprit net et ta volonté infaillible. Quand la lutte finira, si tu es comme ça, les deux côtés sortiront vainqueurs. Les deux côtés sortiront vainqueurs. Parce que les deux côtés auront testé leurs limites et leur savoir-faire. Tout le monde sera gagnant. Mais si quelqu'un veut te provoquer, nettoie la poussière de tes chaussures et passe ton chemin. Ça ne sert à rien. Ne lutte qu'avec ceux qui en sont dignes. Et pas avec ceux qui usent de stratagèmes pour prolonger une guerre qui a déjà pris fin, qui s'incruste afin de prolonger une guerre qui a déjà pris fin. Sur terre, Dieu, dans son infinie sagesse, a caché l'enfer au milieu du paradis. Alors bien sûr, on dit dans la Bible que le paradis était au milieu du jardin. Mais maintenant, depuis que Jésus est venu, eh bien, il a créé un paradis, son église, mais au milieu de son église, il a caché un enfer. Pourquoi ? Afin que nous n'oublions jamais la colonne de la rigueur, tandis que nous vivons dans la joie de la miséricorde. Mes frères et sœurs, prenez courage, que Dieu vous bénisse. Notre miracle est en chemin. Amen. Amen. Merci Jésus de nous soutenir, de nous fortifier dans notre foi et de nous aider à vivre et à continuer à tenir ferme sur les choses que tu nous as révélées. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que nous sommes toujours prêts à pardonner les erreurs de ceux qui nous ont fait du tort, mais nous n'acceptons pas la trahison. Nous acceptons, s'ils se repentent, de pardonner l'erreur. Mais Seigneur Jésus, tu nous donnes d'être prudents. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Sois béni mon Sauveur. Amen.
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 On va se lever, on va chanter un peu, on va louer le Seigneur un moment. Il faudra le mettre en ligne vers 3h30, pas avant. Hein. Vers 3h30, il faut le mettre en ligne, pas avant.
Appartenir au Seigneur, dans ce monde qui nous appartient.